Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Gilles de Haguenau et Fabien de Londres ont soufflé à Franck Ferrand le sujet de son émission d'aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Je vois qu'on a quelques problèmes avec nos musiques là aujourd'hui. Gilles et Fabien nous expédient aux États-Unis, quoiqu'à l'époque dont nous parlons, le Texas n'avait pas encore sa place sur la bannière étoilée. C'est en effet en 1836 le siège de Fort Alamo et le bras de fer entre États-Unis et Mexique que je vous propose de revivre cet après-midi. Et pour nous livrer toutes les clés de cette affaire, j'ai convié l'un des meilleurs connaisseurs de l'histoire américaine, André Caspi.
Et puis tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Johan. Il est nutritionniste et voudrait savoir ce que l'on mangeait au XVIIIe siècle.
Je ne sais pas si je pourrais répondre avec toute la précision qu'exige un nutritionniste, mais vous allez voir qu'on mangeait toutes sortes de bonnes choses au XVIIIe siècle. Pour le moment, il est plutôt question de tacos et de tortillas. Nous mettons le cap sur la frontière américano-mexicaine.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Dont je vous parle, c'était en France le temps de Louis-Philippe. Cette partie du Texas, enfin ce Texas dont nous allons parler, était encore mexicain. C'était la partie verdoyante du Mexique, une terre riche, avec des prairies, avec du gibier évidemment. Pour le Mexique, ça fait rêver. On pouvait y pratiquer l'élevage, la pêche. Évidemment, ce pays de cocagne ne pouvait qu'attirer un certain nombre de colons anglo-américains qui, venus de plus au nord, bien entendu, s'installaient de plus en plus nombreux dans cette région. Il y avait quand même un problème de sécurité dans la région, on y reviendra tout à l'heure, puisque les brigands étaient nombreux et qu'il y avait encore des Indiens qui refusaient la présence des Occidentaux. En 1830, une décision est prise par les Mexicains. Il s'agit de limiter la colonisation. On prend une nouvelle loi. Désormais, quand vous voudrez vous installer au Texas, il faudra que votre passeport soit visé, signé par un consul du Mexique. Évidemment, ça ne plaît pas du tout à l'espèce de horde qui s'installe régulièrement sur ces terres. Il faut vous imaginer que ce n'est sûrement pas la fine fleur de Boston qui vient s'installer au Texas dans les années 1830. En décembre 35, les rebelles texans, comme on les appelle déjà, s'emparent de la ville de San Antonio, qui est la plus grande ville du Texas à l'époque, et donc ils ont bien l'intention de ne pas la restituer aux Mexicains. Seulement les Mexicains, évidemment, ne sont pas d'accord. Leur dictateur s'appelle Antonio López de Santa Anna, personnage très important. On le surnommait le Napoléon de l'Ouest, et c'est vrai que c'était pas tellement de subtilité, généralement. C'est un militaire, il est très déterminé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il reforme des bataillons pour aller reprendre San Antonio. En face, les Texans, malgré leur exploit, sont démobilisés et nombreux sont ceux qui choisissent la désertion. On peut dire que San Antonio est plus que menacé. En janvier 36, le lieutenant-colonel Ney décide de replier les hommes dans un endroit, un petit quartier de San Antonio qui s'appelle donc Alamo. Il a 80 hommes à sa disposition. Alamo, c'est une ancienne mission franciscaine qui a été bâtie pour christianiser les populations indiennes à l'époque. C'était ça le but. Imaginez donc tout un ensemble de bâtiments disposés autour d'une cour rectangulaire, une cour qui fait un demi-hectare. C'est que c'est pas grand tout ça, bien entendu. Au sud s'étend une modeste construction en longueur percée par l'entrée principale, nous dit Farid Hammer dans les derniers jours de Fort Alamo. Le mur ouest, qui fait directement face à la ville, est composé d'une ligne irrégulière de logements en briques, reliés et protégés par une muraille de pierre. En plus mauvais état, l'extrémité nord est agencée de la même façon. Le côté est, en revanche, est plus complexe, de solide construction. Il est bordé par de longs baraquements servant de caserne. Vous aurez néanmoins compris qu'on ne parle pas là d'une place militaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'armes. Loin de là, à Alamo, c'est un véritable bastion que l'on ne va cesser de renforcer, bien entendu, de fortifier quasiment même, et qui est très bien armé, c'est le mieux armé à l'ouest du Mississippi. On y trouve 18 canons braqués évidemment vers les assaillants éventuels. La plupart sont des batteries de 8 à 12 livres, c'est pas des très gros canons, hein, c'est plutôt des petits canons. Mais il y a quand même un gros canon de 18 livres. Alors, dès qu'on parle de Fort Alamo, évidemment, trois noms viennent à l'esprit, ceux des trois héros que vous avez forcément vus dans le film de Ford. Hein, ils symbolisent, ils représentent, si vous voulez, ces colons qui viennent s'installer depuis le nord, qui viennent s'installer au Texas et qui ont l'intention de le prendre aux Mexicains, pour tout vous dire. Il y a d'abord un jeune avocat, il a 26 ans, il est originaire de l'Alabama. Il est venu refaire sa vie au Texas, il est arrivé là au début de l'année. Il s'appelle William Barrett Travis, personnage un petit peu prétentieux, il faut bien le dire. Il prend le commandement des troupes régulières du colonel Ney, qui lui a été obligé de repartir dans sa famille pour des raisons personnelles. Donc, très important ce Travis, c'est le chef si vous voulez. James Bowie est un grand gaillard, bagarreur, enfin alors là on est dans toute la mythologie de l'Ouest, n'est-ce pas ? Personnage souvent ivre, il faut bien le dire. Lui aussi est venu refaire sa vie au Texas, il s'est lancé dans la spéculation foncière. Bref, il fait partie de ceux qui fondent de grands espoirs dans une véritable colonisation américaine sur ces territoires. Et puis, j'ai gardé le plus célèbre pour la fin bien entendu, arrive dans le courant du mois de février un homme d'une cinquantaine d'années, qui débarque avec une dizaine d'hommes du Tennessee. Il porte un bonnet en castor. C'est évidemment Davy Crockett, qu'on surnomme le lion de l'Ouest, un célèbre chasseur d'ours. Davy Crockett, on dit qu'il a tué plus de 100 ours en une seule saison, vous imaginez. Il a été élu à la Chambre des représentants, élu du Texas, ce qui veut dire quand même, vous voyez, le caractère extrêmement paradoxal de ce territoire. Bref, lui est convaincu que le Texas est l'endroit idéal pour faire fortune. Il fait partie de ces Américains qui rêvent d'une extension à l'ouest et au sud. On prévoit de faire d'autres travaux dans la fortification, notamment on est en train de creuser des douves. Bref, on est en train de transformer Alamo en une véritable forteresse. Et la vie qu'on mène là est plutôt détendue. Il faut les imaginer chantant, jouant au poker, buvant évidemment, plus que de raison, tous ces gaillards-là. Le 23 février 1836, à l'aube, il n'est plus question de poker ni de beuverie. Un cavalier accourt au grand galop vers San Antonio et il affirme que les Mexicains sont en marche, qu'ils arrivent. Ils ont à leur tête le président en personne, Santa Anna. Il est grand temps de faire évacuer San Antonio. Tout le monde décide de se replier vers le fort. Dans l'après-midi, alors que les Mexicains ont hissé le drapeau rouge sur l'église de San Antonio, combattants et non-combattants sont maintenant retranchés à l'intérieur d'Alamo. On peut dire que l'épreuve de force va bientôt pouvoir commencer.
Un extrait de la bande originale du film Fort Alamo, réalisé par John Ford. Pour agir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages et vos questions, chers auditeurs, il y a la page Facebook de l'émission, les mails europe1.fr ou encore via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la bataille de Fort Alamo.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Revenons avec vous Franck Ferrand au siège de Fort Alamo.
Il est, alors d'ailleurs, précisons que le film dont on parlait, Alamo, a été non seulement interprété, mais aussi réalisé par John Wayne.
Exactement.
Pardon, c'est moi qui vous ai induit en erreur, Céline, donc je voulais le préciser. Donc, il est 16h, ce 23 février 1836. Le président mexicain est là, qui propose à tous ceux qui sont réfugiés dans Alamo une reddition sans condition. Et voici la réponse de Travis. Il fait tirer un coup de canon. Ça a le mérite d'être clair comme réponse. Eh bien, ça y est, le siège de Fort Alamo commence. La première journée, la journée du 24 février, n'est pas une bonne journée. Il y a des tirs de canon, bien entendu, pendant des heures. Obus, boulets, pleuvent sur les quatre coins du fort. Ça ne va pas faire de victimes. James Bowie, lui, va pas du tout bien ce jour-là. Il est cloué au lit. On ne sait pas si c'est de maladie ou parce qu'il a trop bu, comme souvent. Ça arrive. Le soir, Travis écrit une lettre pour demander des renforts, de nouveaux renforts. Et la nuit, les Mexicains sont là, vraiment sous les murs, qui chantent, qui danse, sans doute pour exaspérer les occupants du fort, mais pendant ce temps-là, on ne peut pas dormir, bien entendu, et puis il y a une angoisse qui s'installe, bien entendu. Le 25 février, à 10h, alors que la garnison du fort s'éveille à peine et que les denrées de première nécessité commencent déjà à manquer, une sentinelle aperçoit des hommes s'approcher, elle hurle « Les voilà, ils arrivent !» 300 soldats dans leurs uniformes bleus et blancs, ils sont là, ils s'avancent, baïonnettes au canon. Après 2 heures de combat, les Mexicains repartent. Les rebelles texans leur ont damé le pion. Travis n'est pas rassuré pour autant. Voilà ce qu'il écrit au commandant en chef des troupes texanes, qui s'appelle Sam Houston, on en parlera tout à l'heure. Il lui dit « Si nous sommes submergés, nous nous sacrifierons sur l'autel de notre patrie en espérant que la postérité ainsi que nos compatriotes nous rendront justice. Aide-moi, ô mon pays, la victoire ou la mort. » Alors là, pour tout vous dire, lorsqu'on est en présence de déclarations comme celle-là, on est en droit de se demander s'il s'agit de documents historiques ou de légendes tissées après les faits. C'est une des questions que je poserai dans un instant à André Caspi, bien entendu. Ce qui est certain, c'est que les 1350 soldats, avec un grossi d'un contingent de 300 fantassins mexicains, sont là, sous les murs de Fort Alamo. Ce sont des hommes expérimentés, ce sont des professionnels, si je puis dire. Alors que à l'intérieur, vous avez 200 Texans qui ne sont pas vraiment des militaires. Hein. Ce sont des jeunes gens, des colons. Leur seul avantage, c'est la position qu'ils occupent. C'est leur équipement incontestablement et puis surtout peut-être c'est la foi qu'ils ont dans leur bon droit et dans la nécessité de s'installer, de s'enraciner sur place. Le 26 février, la matinée a été calme, 8 canons mexicains pendant tout l'après-midi vont bombarder Alamo jusqu'à la nuit tombée. Et il faut imaginer là des blocs entiers de murs qui tombent, hein, qui s'effondrent. Dans l'église, les femmes et les enfants sont là qui se sont réfugiés. La journée du 27 février, celle qui suit ce bombardement intensif, est assez calme. Comme les jours précédents, je n'ai pas eu l'occasion de vous le préciser, mais il faut le dire, on est en février, il fait froid, il fait même très froid, il y a un vent sec, terrible. Les hommes sont très fatigués, on essaie de se reposer comme on peut, mais le manque de nourriture commence à se faire sentir. Le lundi 28, les Mexicains s'approchent de nouveau pour couper les canaux d'irrigation. Ils rapprochent leurs propres canons à 700 mètres d'Alamo. Donc on peut dire que l'étau se resserre considérablement, que la nasse est en train de se refermer autour de ce réduit, car c'est un réduit dont on est en train de parler. Nouvelle journée de calme, c'est ce qui d'ailleurs fait toute la force d'un film comme celui dont on parlait, c'est qu'évidemment cette histoire est constamment ponctuée de répit, d'attente, il y a l'angoisse de l'attente, on ne sait jamais, évidemment que l'initiative pour l'essentiel appartient aux assaillants, bien entendu. Donc le 1er mars, une journée assez calme, et la nuit suivante, bonne nouvelle, les assiégés apprennent qu'une trentaine de cavaliers sont en train d'accourir à leur renfort. C'est déjà ça, se dit Travis, mais évidemment, ça n'est pas suffisant. Le 2 mars, on est donc maintenant au 9e jour de siège, ça fait plus d'une semaine que ça dure, les tirs continuent, les renforts demandés n'arrivent toujours pas, et là, Travis se dit qu'il ne tiendra pas beaucoup. Le 3 mars, il fait un petit peu moins froid d'ailleurs, il y a moins de vent. Autre bonne nouvelle, l'un des messagers de Travis arrive à parvenir au fort. Il revient avec une lettre qui annonce que des hommes vont épauler le réduit d'Alamo. On annonce entre 8 et 9 000 hommes. Ça changerait tout, bien entendu. Seulement Travis déchante vite quand il apprend dans un autre courrier que la défense d'Alamo n'est pas une priorité pour l'armée texane. Ça n'a pas été considéré comme un véritable objectif stratégique. Et la raison d'ailleurs de ces décisions, des décisions qui viennent de haut et de loin, nous essaierons de la comprendre tout à l'heure. Alors, Ils essaient néanmoins, ils tiennent, Travis écrit une lettre, littéralement une lettre de détresse au président de la Convention. Et il lui dit, bien qu'il puisse succomber à la vengeance d'un ennemi impitoyable, la victoire coûtera si cher à cet ennemi que mieux vaudrait pour lui une défaite, Dieu et le Texas, la victoire ou la mort. Ça, c'est une détermination extraordinaire, ou bien une légende admirablement contée, que sais-je. En tout cas, on y croit de moins en moins. Le Travis va écrire une dernière lettre au directeur de la pension dans laquelle vit son fils, Charles, et lui dit « Prenez soin de mon petit garçon. Si la région est sauvée, je serai à même de lui offrir une destinée magnifique. Mais si elle doit être perdue et que je périsse, il ne lui restera rien d'autre que la fierté d'être le fils d'un homme mort pour sa patrie. » C'est dommage qu'on n'ait pas de trompettiste accrédité dans cette émission, parce que vous verrez, et de violoniste surtout, parce que là, on ferait envoyer les violons, bien entendu. Dans le même temps, en face, le président mexicain Santa Anna exulte, car lui, les 2500 cavaliers, il les a, ils sont là sous ses ordres. Il y a 2500 soldats, 400 cavaliers, bref, il a une véritable armée. À l'aube suivante, les canons sont maintenant, je vous avais dit à 700, ils s'étaient rapprochés petit à petit, ils sont maintenant à 250 mètres du mur nord. Ce mur nord, c'est le point faible d'Alamo, il est en très mauvais état, bien qu'on ait entassé les sacs de sable, les vieilles planches, etc. pour essayer de le colmater. On creuse des tranchées, on lève des parapets, on fait aussi des travaux de fortification à l'intérieur des baraquements pour essayer de faire comme une sorte de deuxième ligne de défense. Mais côté mexicain, cette fois, on est parfaitement prêt et l'on va bientôt lancer l'assaut.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à cet événement majeur de la Révolution texane, le siège de Fort Alamo.
Nous sommes maintenant à l'aube du 5 mars et les canons mexicains ne sont plus qu'à 200 mètres du fort. Et ils vont donner pendant toute la journée ces canons. Bien entendu, 400 boulets et obus vont s'abattre contre les dernières résistances de Fort Alamo. Santa Anna, le président mexicain, convoque ses officiers pour évoquer les derniers détails. Il fixe l'assaut final à 4 heures du matin le lendemain avec 4 colonnes différentes de 1200 hommes en tout. Et d'autre part, il y a 400 cavaliers, je vous avais dit, qui sont à sa disposition et qui vont s'installer sur des collines afin de liquider, de tuer les Texans qui seraient amenés à prendre la fuite, à quitter le fort. Je dis les Texans américains, bien entendu. Il ne faut laisser aucun survivant. Sans verser le sang ou les larmes, point de gloire, a dit Santa Anna. Le soir du 5 mars, vous imaginez l'ambiance à l'intérieur évidemment du fort. Travis a réuni tout le monde devant la chapelle. Il félicite les gens pour leur bravoure. Il détaille la situation. Les murailles sont en ruine. Les Mexicains se sont renforcés. Les canons se rapprochent chaque heure davantage. Un renfort n'est plus qu'hypothétique. Bref, la fin est proche. Il annonce qu'il restera jusqu'au bout. La tradition veut que Travis, à ce moment-là, ait tracé une ligne avec son épée. Vous savez, il a tracé une ligne devant lui. Il a invité tous ceux qui étaient prêts à poursuivre la lutte à franchir cette ligne et à le rejoindre. Et d'après certaines sources, le seul qui n'est pas suivi, c'est le Français qui se trouvait là, qui s'appelle Louis Rose. Le 6 mars, on est donc le 6 mars 1836, retenez bien la date. Il est minuit, les soldats mexicains sont réveillés. À une heure, les quatre colonnes font mouvement. Les fantassins traversent la rivière. Ils sont maintenant à 180 mètres d'Alamo. Pendant ce temps, au nord-ouest, le général Cos est à la tête d'une force de 300 hommes. 400 troupiers sont face au mur nord. À l'est, 300 fusiliers sont en place. Et au sud, il y a une centaine de chasseurs. À 5 heures, ça veut dire qu'il commence déjà à faire à peine jour, mais un petit peu, l'assaut aurait dû être donné, puisqu'on avait dit que l'assaut était à 4 heures. Et pour l'instant, il ne se passe rien. 5h20, l'infanterie mexicaine se met en marche. Elle avance lentement, en ne faisant quasiment aucun bruit. Il s'agit de ne pas être répété et d'être repéré. Et puis soudain, évidemment, c'est l'assaut. Un des fantassins crie « Viva Santa Anna, viva la Repubblica !» Des centaines d'hommes font bientôt la même chose. On fait sonner la charge, il est 5h30 et cette fois la bataille de Fort Alamo commence. C'est toujours comme ça les sièges, il y a d'abord un long siège et ensuite une brève bataille. À l'intérieur on est réveillé, enfin si je puis dire réveillé parce qu'on ne faisait que somnoler bien entendu, dans un état de veille angoissé. « Allez les gars, les Mexicains sont sur nous !» crie Travis, « Pas de quartier !» Les canons tirent, la mitraille se déchaîne et soudain, Travis reçoit une balle en plein front. Il s'écroule, il a toujours son fusil à la main. Ça, c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Il faut maintenant imaginer des combats rapprochés, extrêmement sanglants, à coups de crosse, de couteau, des empoignades à main nue. Au nord-ouest, au nord-est, les Mexicains font plusieurs percées, les défenses abandonnent leur position. La porte principale du mur s'ouvre, des centaines de Mexicains maintenant se ruent dans l'enceinte d'Alamo. Vous imaginez, les assiégés sont cernés de toutes parts, certains essaient de se replier dans l'église. On entre dans la chambre de Bowie, qui décidément était toujours alité. Il est criblé de coups de baïonnette, il reçoit même une balle dans la tête. Il va mourir là, comme ça, dans son lit. Il reste bientôt une vingtaine de rebelles. Le capitaine Dickinson dirige le feu de 3 canons. Crockett et ses hommes du Tennessee essaient de se défendre, mais les Mexicains veulent en finir. Ils utilisent le canon de 18 livres et, aux lueurs du jour, les derniers combattants et non-combattants, d'ailleurs, se réfugient dans la chapelle. Le canon, le gros canon, là, va pilonner cette chapelle. La grosse porte en chaîne finit par céder. Les Mexicains se ruent à l'intérieur de l'édifice. Ils s'acharnent sur les derniers combattants. Dickinson est tué. Crockett aussi est tué. Il y a même un chat qui est tué dans cette opération. Vous allez me dire, un chat, mais qu'est-ce que vient faire un chat? Ben oui, mais il y a un Mexicain qui dit, c'est pas un chat comme les autres, celui-là, c'est un Américain. Il s'en faut de peu que les Mexicains surexcités abattent aussi les non-combattants, qui en vérité seront épargnés, il faut le dire. Il est 6h30, la bataille est finie. En moins d'une heure, le Mexique a repris possession des lieux, il a anéanti les rebelles du fort. Il y a, on peut dire, une victoire totale. Elle est pour le Mexique, évidemment. Santa Anna entre dans Fort Alamo. Il fait dicter un rapport. Il prétend que 600 Texans sont morts. En fait, il y en a eu moins de 200. Et qu'il y a eu 70 morts et 300 blessés côté mexicain. En fait, il y a eu plutôt 200 morts et 400 blessés. C'est assez amusant de voir la bataille que continue de se livrer tellement longtemps après, historiens mexicains et des États-Unis sur cette question. Sans le savoir, les hommes qui ont tenu le siège, qui se sont battus jusqu'à la mort, vont favoriser l'indépendance du Texas. Je dis sans le savoir, est-ce bien certain, finalement ? Bonjour André Caspi.
Bonjour.
On se rend compte que cette affaire laisse beaucoup plus de questions en suspens qu'on aurait pu l'imaginer. Eh bien, ces questions, je vais vous les poser dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Bien, les voilà, les trompettes, en fait. Nous les attendions, Céline.
C'est le siège de Fort Alamo qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, le professeur émérite à la Sorbonne, André Caspi.
Alors, André Caspi, on a bien compris que cette affaire est très largement mythifiée. Elle fait partie des mythes fondateurs des États-Unis. Et ce sont les historiens américains qui la racontent le plus souvent.
Elle fait partie des mythes fondateurs des États-Unis. Et surtout du Texas.
Et du Texas, oui,
et
bien
du
sûr.
Du Texas en particulier. Je crois qu'il faut se reporter à l'époque de cette aventure. C'est-à-dire que, tout d'abord, lorsque les États-Unis sont devenus indépendants, à partir de 1776, ils se limitaient, pourrait-on dire, à la frontière du Mississippi.
Ils sont les 13 colonies du Nord-Est, en fait.
Puis, les États-Unis, en 1803, ont acheté la Louisiane. Et la Louisiane, ça n'était pas l'État que nous connaissons aujourd'hui, mais c'était l'ensemble des grandes plaines. Ce qui veut dire que l'expansion vers l'ouest commençait.
On multiplie par 5 le territoire, même plus.
C'est phénoménal. En même temps, c'est un territoire qui est très prospère, pour l'élevage en particulier, et qui est pratiquement vide. Certes, il y a des tribus indiennes, mais les Américains de cette époque n'ont aucune hésitation, puisque les tribus indiennes, on les rejette le plus possible pour faire place aux pionniers. Et reste le cas du Mexique. Alors le Mexique est devenu indépendant de l'Espagne en 1821.
Très peu de temps avant.
Ce qui veut dire que c'est 15 ans avant Fort Alamo. Et à partir de ce moment-là, le Mexique, c'est une véritable proie pour plusieurs pays européens.
Oui, tant que c'était la couronne d'Espagne, c'était quand même embêtant d'aller marcher sur les plates-bandes du roi d'Espagne. D'un seul coup, c'est un petit État indépendant, c'est une république qui est là et qui devient effectivement une proie.
Oui, alors il y a bien sûr des intrigues anglaises, il y a des intrigues françaises, ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas non plus qu'un peu plus tard, sous le Second Empire, il y a même une expédition mexicaine de la part de la France et de puissances européennes d'ailleurs, pour installer l'empereur Maximilien. Mais là, on n'y est pas encore. Ce qui veut donc dire que le Mexique possède le Texas. Et pour beaucoup d'Américains, au fond, le Texas, c'est une zone d'expansion. Parce que l'on sait que si on s'installe au Texas, on a la promesse de recevoir un lot de 19 km² de terre. 19 km² de terre.
C'est gigantesque, mais qui a décidé ça?
Alors, ça, c'est une possibilité qui est offerte par le Texas pour attirer les colons. Mais il est évident que les colons qui viennent, ce sont des colons américains qui considèrent que les Mexicains font partie d'une sous-race et qu'en conséquence, ce territoire a pour vocation à devenir l'un des éléments moteurs de l'expansion des États-Unis.
Donc en fait, c'est la République du Mexique qui donne le fameux territoire là, de 19 km².
Pour l'instant, il n'a rien donné, mais il promet. Ce qui veut donc dire qu'il y a beaucoup d'aventuriers...
Ça attire les aventuriers.
...qui viennent au Texas. Parce que les trois personnalités ou personnages que vous avez évoqués ne sont pas du tout du Texas.
Travis Bowie et Crockett.
David Crockett vient du Tennessee. Il a eu une carrière très belle au Tennessee, puisqu'il a chassé les ours. Bien sûr, il a beaucoup d'amitié indienne. C'est d'ailleurs pour cela qu'il porte sa fameuse coiffe. Et puis, il a été, pendant plusieurs années, membre de la Chambre des représentants de l'État du Tennessee. Autrement dit, c'est un législateur, c'est un politique qui décide de quitter le Tennessee pour partir à l'aventure en direction du Texas. Si vous prenez, par exemple, Bowie. Bowie, lui, il vient plutôt de Louisiane. Il a abandonné sa famille, mais enfin bon...
Ça faisait partie. Rupture de banc, lui.
Oui, mais Bowie, il s'est surtout signalé dans une bataille, dans un duel en Louisiane, où il a achevé ses adversaires avec un immense couteau qu'on appelle le couteau Bowie. C'est-à-dire qu'au fond, c'est à la fois un gangster avant l'heure, puisque le mot n'existait pas à l'époque. C'est un aventurier, c'est un homme qui cherche une nouvelle vie. Et pour cela, après avoir abandonné et sa famille et son État, il se rend au Texas. Et si vous prenez le cas de Travis oui. Lui, il vient d'Alabama. C'est-à-dire que, là encore, c'est un homme qui jette derrière lui tout son passé pour essayer de se construire une nouvelle existence.
Ce sont des têtes brûlées, tous ces gens-là.
Ce sont des têtes brûlées, ce sont aussi des gens qui recherchent des terres. Et grâce à ces terres, qui espèrent s'enrichir, car une fois qu'ils auraient reçu leur lot, ils pourront ou bien le cultiver, ce qui est peu probable, parce que ça n'est pas tout à fait dans leur gène, mais il est vraisemblable qu'à ce moment-là, ils le vendraient, donc ils le vendraient à bon prix. Ce qui veut dire que le Texas, c'est véritablement la proie pour tous ceux qui veulent pousser la colonisation des États-Unis vers l'ouest. C'est ça le problème. Donc à partir de ce moment-là, il y a nécessairement des hostilités qui se créent entre les Texans américains et les Mexicains.
Mais comment expliquer que ces gens un peu sans foi ni loi que vous nous présentez néanmoins puissent avoir des déclarations quasi sublimes comme des héros de l'Antiquité grecque? On a l'impression qu'ils font des grandes déclarations sur la patrie, sur la mort, etc. On leur a prêté ces mots-là, non?
Vous avez raconté le fort Alamo comme si vous y étiez. J'avais l'impression de suivre le reportage en direct sur Europe 1. Mais il est évident que nous n'avons pas de traces très précises de tout ce qui s'est passé. Et évidemment, cet événement a été enjolivé d'abord dans l'histoire du Texas, puisque le Texas est devenu indépendant en 1836, un peu après Fort Alamo. Il y a eu une bataille qui est la bataille de San Jacinto, où le général Santa Anna a été fait prisonnier d'ailleurs. Et ce qui a été suivi, c'est la proclamation de la République du Texas sous la présidence de Sam Houston que vous avez cité. Mm-hmm. Et puis d'autre part, c'est devenu également un mythe dans l'ensemble de l'histoire des États-Unis. Et ça n'est pas pour rien que le film que vous évoquiez a été tourné en 1960, c'est-à-dire à une époque où on est encore très proche de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ne sont pas encore véritablement intervenus au Vietnam, donc je crois qu'il ne faut pas mêler le Vietnam à cette affaire, mais John Wayne, c'est quand même évidemment celui qui donne à tous ses héros une dimension formidable, c'est-à-dire que c'est une exaltation du patriotisme. Par conséquent, toutes les déclarations possibles et imaginables peuvent être mises dans la bouche de Travis, de Bowie, ou...
On ne prête qu'aux riches, surtout aux morts.
Oui, à Crockett, bien sûr, parce que, au fond, aucun de ces trois n'est là pour dire « je l'ai prononcé, ces mots, ou je ne les ai pas prononcés, on n'en sait rien ».
On a fabriqué de belles histoires. Cela dit, les Américains sont très doués pour ça. Il y a un personnage dont je n'ai pas parlé, c'est Stephen Austin.
Oui, alors, Stephen Austin, lui, qui a donné son nom à la ville... était plutôt secrétaire d'État. Il n'a pas été président de la République du Texas, hein. Mais en revanche, Houston, lui, l'a été. Et il y a une ville qui porte son nom, de Houston.
Oui, qui est
Austin,
la capitale maintenant de l'État.
Bien sûr. Et Houston, c'est aussi la ville la plus importante, hein, au Texas.
Aujourd'hui, oui.
Donc tout cela fait que vous avez là l'imaginaire texan qui est en pleine action. Et alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Texas est resté une république indépendante pendant 9 ans. C'est en 1845 que le Texas est entré dans l'Union et a fait partie désormais des États-Unis.
Donc presque 10 ans plus tard.
Hein. Et le Texas continue, même aujourd'hui, à revendiquer son histoire particulière parce que c'est quand même le Lone Star State, c'est-à-dire l'État qui a une seule étoile par rapport à l'Union des États-Unis qui, elle, a autant d'étoiles que d'États.
Donc il y a un particularisme texan qui ne s'entend pas seulement dans l'accent de ceux qui en viennent.
Et il faut dire aussi que les présidents qui sont issus du Texas ne manquent pas de rappeler leurs origines.
Il y en a eu un certain nombre, en l'occurrence.
Et tout récemment, puisque George Bush lui-même était originaire... Enfin non, il n'était pas originaire du Texas, mais enfin, il habite le Texas.
Voilà, il y exploitait des champs pétrolifères, si je ne m'abuse.
Oui.
Nous allons, si vous le voulez, André Caspi, prendre un peu de hauteur maintenant et revenir après le détail de ces événements. Et vous nous avez fait comprendre à quel point il fallait évidemment les prendre avec un certain recul. Nous allons maintenant évoquer la géopolitique et qui étaient les hommes politiques qui, au-dessus de cette mêlée, tiraient les marrons du feu.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, dans Au cœur de l'histoire, du siège de Fort Alamo avec votre invité André Caspi, professeur émérite à la Sorbonne.
D'abord, un mea culpa, décidément, j'ai attribué tout à l'heure le film de John Wayne à John Ford. Mm-hmm. Et là, j'ai fait bien pire. J'ai attribué au castor la toque de Davy Crockett. Pas du tout, elle est en raton laveur, comme le fait remarquer Yves Duplessis Robinson. Merci Yves, vous avez raison. C'était, je pense qu'une grande partie, notamment de nos jeunes auditeurs, auront rectifié d'eux-mêmes. La toque en castor de Davy Crockett, ça c'est un mythe. On parle de mythe, mais c'est d'ailleurs étonnant de voir à quel point les États-Unis, qui possèdent somme toute relativement peu de patrimoine et d'éléments historiques auxquels se raccrocher, ont tendance à magnifier les rares qui sont à leur disposition, André Caspi.
Oui, mais il faut quand même reconnaître que cette période est particulière parce qu'elle précède la guerre de sécession, c'est-à-dire que c'est une période au cours de laquelle les États-Unis ont encore une unité solide. Certes, il y a déjà des tensions entre le Sud et le Nord, mais il n'empêche que la guerre de sécession est encore lointaine. Elle n'éclate qu'en 1861, comme chacun sait. Donc ça veut dire que c'est une période qui intrigue particulièrement l'Europe. Prenez un exemple, Alexis de Tocqueville fait un voyage en direction des États-Unis à partir de 1831 pour aller voir ce qui s'y passe. C'est-à-dire que c'est un pays qui intrigue par sa nouveauté. Il est en principe missionné pour visiter les prisons. Mais à partir de là, il fait un reportage qui aujourd'hui encore reste particulièrement intéressant.
Oui, c'est amusant cette coïncidence en quelque sorte. On a de Tocqueville une autre image et finalement il est allé là-bas sur place et de la démocratie en Amérique, c'est du vécu si je puis dire.
C'est du vécu et en même temps c'est la même période que Davy Crockett, que Travis ou que Bowie.
Entre parenthèses, on ne peut que recommander la lecture de ce chef-d'œuvre car chaque phrase en est littéralement lumineuse. C'est César qui nous demande si le Mexique aujourd'hui pourrait d'une certaine manière réclamer les territoires récupérés par les États-Unis.
Rien ne l'empêche de réclamer les territoires, sauf que d'abord il y a eu une guerre entre le Mexique et les États-Unis de 1846 à 1848, cette guerre s'est terminée par un traité, et que le traité reconnaît l'annexion par les États-Unis de vastes territoires qui appartenaient auparavant au Mexique.
Alors, qui est le président des États-Unis en 1836 ?
Alors, le président des États-Unis à cette époque-là, c'est Andrew Jackson. Alors, Andrew Jackson, c'est un personnage, là aussi, très pittoresque. Hein. C'est un général. Il a participé à l'expansion de son pays en 1818, parce qu'il a envahi la Floride, qui à cette époque-là était espagnole, et qui est devenue, du coup, américaine. Et puis, par la suite, il a fait une très belle campagne électorale, puisqu'il a été élu en 1828 à la présidence des États-Unis et réélu en 1832. Ce qui veut donc dire que de 1829 jusqu'en 1837, il exerce deux mandats de président aux États-Unis. C'est un démocrate. Et c'est un démocrate au sens politique du mot, c'est-à-dire il appartient au Parti démocrate. C'est aussi un démocrate dans sa façon de procéder, c'est-à-dire que son élection, son entrée à la Maison-Blanche, parce que la Maison-Blanche existe déjà à l'époque,
bien sûr, oui.
Son entrée à la Maison-Blanche en 1829 a fait beaucoup de bruit, parce que ses partisans n'ont pas hésité à piétiner les salons, à manifester en somme leur enthousiasme en démolissant les meubles, puisqu'ils entraient enfin dans ce temple même de la démocratie. Et ils succédaient à des présidents un peu plus aristocratiques, qui avaient...
Plus lointains,
c'est-à-dire, ou bien c'était des présidents qui avaient connu la révolution américaine, genre Madison, Monroe, etc. Ou bien c'était des descendants, comme Adams, qui était lui-même le fils d'un autre président. Donc ça veut dire qu'il y a là un changement. C'est-à-dire que les États-Unis accèdent, si l'on peut dire, à une démocratie de type populaire. Et bon, toute proportion gardée. Et en même temps, c'est une démocratie expansionniste. Car Andrew Jackson est l'homme qui a chassé les Indiens qui vivaient encore dans les États du Sud des États-Unis. Il les a transférés de l'autre côté du Mississippi, sans leur demander leur avis, bien entendu. Et ces Indiens ont ainsi parcouru ce que l'on appelle la vallée des larmes.
Oui, c'est une déportation massive.
Alors, c'est une déportation sans mort, sauf qu'il des morts en cours de route. Mais on ne tue pas les Indiens, ils meurent. Mais on ne les tue pas. Ce qui veut donc dire qu'on libère du territoire pour permettre justement cette expansion territoriale. Et ça correspond tout à fait.
Donc ça va bien dans l'état d'esprit de l'époque, forcément. Et depuis Washington, on doit regarder de très près ce qui est en train de se passer à Fort Alamo et ailleurs au Texas.
Oui, alors depuis Washington, mais enfin, vous savez, ça fait quand même des milliers de kilomètres.
Voilà, c'est ça.
Ça fait des milliers de kilomètres. Et à cette époque-là, comme Internet n'existait pas,
non, c'est le moins qu'on puisse
dire. Je vais
vous
faire une confidence. Andrew Jackson n'était pas abonné à Facebook. Par conséquent, il y a peu de chances qu'il ait appris ce qui s'est passé en février et mars 1836 au Texas.
Oui, il l'a pas appris.
Il l'a pas appris tout de suite.
Voilà, c'est ça. Il a fini par l'apprendre.
Et sans compter que c'était presque au terme de son deuxième mandat.
Mais comme vous l'avez dit, de toute façon, il s'agit de créer dans un premier temps une république indépendante et non pas un nouvel État des États-Unis.
Non, bien sûr.
Qui est en face, ce général Santa Anna, donc ce dictateur mexicain ?
Alors, ce général est un peu particulier parce que vous les avez rappelé qu'il avait pour surnom d'être le Napoléon de l'Ouest. Alors, la légende veut qu'il ait combattu dans plus de guerres que Washington et Napoléon réunis. C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu beaucoup, beaucoup de batailles. Beaucoup de batailles contre les Américains, des batailles contre les Indiens, des batailles entre Mexicains. Et ce général avait aussi la réputation, une réputation fondée, d'avoir perdu un pied dans une de ces batailles. Donc, on l'appelait le général 11 ongles. Et il avait, un peu plus tard, il a même perdu une jambe. Donc, ça veut dire que c'est un général qui est véritablement cousu de blessures. Hein. Et en même temps, c'est un général prestigieux, mais contesté, parce que très souvent, il a dû partir en exil. Le Mexique est un pays instable à cette époque-là, et instable d'autant plus qu'il y a des intrigues internationales que j'évoquais tout à l'heure.
Il faut, nous avons deux minutes pour le faire, André Caspi, expliquer comment, d'une victoire mexicaine, on en est arrivé à l'indépendance du Texas.
C'est-à-dire que, peu après Fort Alamo, il y a eu une autre bataille qui, elle, a été menée par des forces texanes supérieures aux forces qui existaient dans Fort Alamo. Cette autre bataille se déroule à San Jacinto et elle se termine par la défaite de Santa Anna, qui est fait prisonnier, et c'est à ce moment-là que Sam Houston proclame la République du Texas.
Alors à ce propos, on dit jamais 203, il ne faut pas trop que je m'aventure aux États-Unis en fait, parce que là je ne suis pas sur mes terres de connaissances habituelles. Troisième mea culpa de l'émission, j'ai été dire tout à l'heure que Houston était la capitale du Texas. Non, c'est la plus grande ville, ça évidemment, mais la capitale c'est Austin en fait. Oui, voilà. Bon, eh bien, vous voyez qu'il faut faire très attention quand on s'aventure.
Je suis certain que vous l'avez fait exprès pour susciter la réflexion de nos auditeurs.
Mais vous avez tout à fait compris, André Caspi. Tout ça, c'est un long savoir-faire.
Bien sûr.
Évidemment, le Texas va devenir donc un État des États-Unis. Vous nous l'avez dit, ça c'est en 1845. Et comment s'est fait cette annexion, si je puis dire.
En 1845, les tensions existent entre le Mexique et les États-Unis, c'est-à-dire qu'au fond ça continue. Et les Texans, craignant d'être reconquis par le Mexique, demandent à l'Union des États de bien vouloir les accueillir. Alors, les États-Unis accueillent le Texas, et du fait qu'ils accueillent le Texas, c'est un motif de guerre entre le Mexique et les États-Unis. Cette guerre a duré 2 ans, jusqu'en 1848, et elle s'est terminée par d'autres annexions américaines dans l'Ouest, ce qui veut dire que désormais, le Mexique disparaît au nord du Rio Grande, c'est-à-dire qu'on se retrouve pratiquement avec la frontière d'aujourd'hui.
Quand on vous entend, on a toujours l'impression de dire « c'est aussi simple que cela ». Merci beaucoup André Caspi pour ces éclaircissements sur une affaire dont vous aurez compris qu'elle est en partie mythifiée.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Johan qui voudrait savoir ce que l'on mangeait au XVIIIe siècle.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Johan. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il est nutritionniste et par des formations professionnelles, il aimerait savoir ce que l'on mangeait au XVIIIe siècle.
J'appellerais ça simplement de la curiosité, oui. Tout à fait saine du reste. Eh bien, on mangeait d'abord du pain, figurez-vous. Alors du pain de froment, le plus souvent. En France, le pain blanc est quand même réservé aux gens qui en ont le moyen, qui en ont les moyens, bien entendu. Hein. Vous savez qu'on mange beaucoup de mélanges de froment, de seigle, de maltei. En fait, le pain blanc est un peu un luxe, il faut bien le dire, il est beaucoup plus facile à digérer, d'où l'expression manger son pain blanc ou manger son pain noir, ça vient directement de là, évidemment. Alors ce pain, évidemment, est issu des céréales, on n'imagine pas à quel point les végétaux occupent une place essentielle dans la nourriture au XVIIIe siècle. Au-delà de ces céréales devenues pain ou galettes, il y a des pois, des lentilles, des fèves, des choux, des poireaux, etc. Toutes les racines également, ce qu'on appelait les racines, c'est-à-dire tout ce qui pousse sous la terre, les navets, les carottes, enfin, etc. Bref. Évidemment, on mange un peu de viande. Alors, du poisson salé ou séché, essentiellement, morue, foie de morue, hareng, sardine, etc. Les beaux poissons, qu'ils soient d'eau douce ou de mer, sont là encore réservés aux tables nettement plus prestigieuses. De la viande, pas tellement consommée dans les campagnes, faut bien le dire. Les tripes, le lard servent à parfumer les soupes, par exemple. Et dans les villes, la viande est certainement plus abondante, puisqu'on estime que vers 1700, un Parisien consomme environ 200 grammes de viande par jour, quand même. D'ailleurs, c'est très intéressant, quand vous allez dans une famille au XVIIIe siècle, en fonction de la quantité de gibier, de volaille, etc. qu'on consomme, vous voyez le niveau social de la famille, tout simplement. Sinon, pour le peuple, ces mets-là, les rôtis, les gibiers, les farces, etc. sont réservés aux jours de fête. Alors là, oui, tout le monde a droit à ça, bien entendu, avec des pâtés, des ragoûts. Si vous montez dans la bonne société, des aspis également, qui sont la grande spécialité du XVIIIe siècle. Le dessert a pris depuis une cinquantaine d'années le nom de fruits, en tout cas dans les bonnes maisons. Alors ça veut dire, il y a les fruits à proprement parler, qu'on sert généralement en pyramide avec du sucre. Les fruits secs également, noix, noisettes, pignons, etc. Ou d'autres desserts faits là encore à partir de massepain, notamment donc d'amandes. Et puis, on consomme beaucoup de fromage, il ne faut pas l'oublier, le fromage toujours à la toute fin du repas, car dans l'esprit de nos ancêtres, il s'agissait de sceller l'estomac. Marion Ruggieri est arrivée, elle ne mange rien de tout ça, elle est au régime. Bonjour Marion.
Bonjour, merci. Vous voulez dire que j'ai besoin d'un régime,
non,
Franck?
Non, au contraire,
c'est ça
au contraire,
que
vous en êtes une démonstration permanente.
Alors Franck, puisque vous me parlez, est-ce que les princesses vous font rêver?
Oh bah oui, si moi elles ne me font pas rêver, qui feront-elles rêver?
Eh bien c'est le thème de cette émission, alors que Kate Middleton va bientôt accoucher, que Cendrillon sort dans 2 jours en France. Et pour en parler, nous recevons Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de Vue, et la styliste personnelle de Kate Middleton.
Vous avez bien de la chance. Merci Marion, nous nous retrouvons demain Céline.
Avec grand plaisir Franck, à demain.